bienvenue sur l'empreinte digitale, je suis Fabrice Amiraud. Dans cet épisode de podcast, on va parler aujourd'hui de copywriting et de conception-rédaction avec Selim Niederhofer. Alors dans cet épisode de podcast, j'ai le plaisir d'accueillir Selim Niederhofer. Selim est concepteur-rédacteur depuis plus de 10 ans. Son métier, eh bien, c'est d'écrire des textes qui vendent grâce aux bons mots et à leur juste articulation. Alors pendant une heure, on a abordé de nombreux sujets hein, autour de la rédaction, la création de contenu. On a parlé des structures pour créer des pages de vente vraiment efficaces et aussi les leviers psychologiques pour rédiger des textes qui convertissent. Alors on a enregistré cet épisode fin décembre, c'est la raison pour laquelle Selim évoque le calendrier de la vente de l'empreinte digitale. Si vous êtes un auditeur fidèle, vous savez que tous les ans au mois de décembre, il y a un calendrier de l'avent avec un conseil d'expert chaque jour. Alors j'avais extrait justement une partie de cette interview pour faire un article dans le cadre du calendrier de l'avent. C'était un article sur l'utilisation du copywriting pour écrire sa lettre de motivation. Je vous mets le lien en bas de cet épisode si vous voulez le réécouter. Voilà, je vous laisse en compagnie de Selim. J'ai vraiment apprécié cette interview. Je suis vraiment ravi de vous la partager aujourd'hui. J'espère que vous prendrez autant de plaisir à écouter cette interview que j'ai pris de plaisir à la faire avec Selim. Bonne écoute. Salut Selim.
Salut Fabrice.
Eh bien, écoute, merci beaucoup d'avoir pris le temps de cet entretien. Merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis vraiment très très heureux de te recevoir aujourd'hui pour ce podcast.
Écoute, moi, ça me fait super plaisir parce que je vois passer ton calendrier de l'Avent et j'ai vu que c'était super bien fait. Donc, je me suis dit, allez, on y va, on joue, on participe.
Bah, c'est très chouette. En tout cas, je suis ravi de t'accueillir. Alors, Selim, je vais te laisser te présenter. Je veux juste te dire un mot au préalable. Donc, tu as publié cette année un livre aux éditions Hérault qui s'appelle Le Guide du Copywriting. Alors, je l'ai vraiment apprécié. Ceci n'est pas un placement de produit. Ceci est fait avec beaucoup de reconnaissance pour ce que j'ai appris à travers ton livre. Super livre. De toute façon, je vais en reparler un tout petit peu plus loin dans ce podcast et je vous mettrai le lien tout en bas. Est-ce que tu veux te présenter un petit peu, Selim, pour nos auditeurs qui ne te connaîtraient peut-être pas encore?
Écoute, vas-y, j'essaye de faire ça de manière très très courte. Ça fait maintenant 11 ans que je suis dans l'univers du copywriting. J'ai commencé en tant que coach en séduction pour les hommes. Donc un jour, on m'a donné des textes à écrire, des articles à écrire. Ça s'est bien passé, c'était sur un site qui s'appelait artdeséduire.com et vu que le big boss fondateur, il m'a dit « Hey, j'aime bien ce que tu écris, est-ce que tu pourrais pas écrire des formations ?» Ben, j'ai écrit des formations et ensuite il m'a dit « Est-ce que maintenant tu pourrais pas écrire la page de vente, s'il te plaît ?» Et là, moi, j'étais là un peu interloqué, je ne sais pas ce qu'est une page de vente. Alors, il m'a mis un livre sur le copywriting dans les mains. C'est comme ça que j'ai découvert. Ça s'appelait Power Copywriting for the Internet. Et c'est comme ça vraiment que je suis devenu non pas rédacteur web, mais copywriter parce que c'était la compétence qui me manquait, savoir vendre vraiment des formations en ligne, accompagner des clients pour créer des entonnoirs de vente, comment on crée une campagne email, comment on vend avec les mots. Voilà, c'est comme ça que je suis vraiment devenu copywriter. Entre-temps, si tu veux, sur toute la décennie, j'ai aussi été community manager de Patrick Bruel pendant 8 ans. Je tiens toujours mon blog masculin depuis 10 ans, depuis 11 ans, où je partage tous mes coups de cœur, lectures, voitures, restos, tout ce qui peut être utile pour faire des cadeaux à un homme. Voilà, globalement, c'est ça. Toutes les expériences qui me font kiffer, je partage tout. Parfois, je parle de séries, je peux parler d'un peu tout ce que je veux. Et ça, c'était mes trois casquettes principales, on va dire vraiment. Copywriter, coach en séduction, community manager de Patrick Bruel et blogueur. En 2018, j'ai décidé vraiment de ne communiquer plus que sur les mots magiques. Donc, les mots magiques, c'est ma chaîne sur le copywriting et ça me permet de partager toutes les techniques d'écriture, tous les secrets de copywriting pour les débutants copywriters.
Ok, super intéressant. Alors, donc Selim, pour ceux qui ne connaissent pas, pour résumer en une phrase, c'est un copywriter qui fait du copywriting. Et pour certains, le copywriting, ils ouvrent de grands yeux en disant « C'est quoi ce truc-là » Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est le copywriting, Selim ?
Bien sûr, le copywriting, c'est l'art de vendre avec les mots. Je pourrais même aller plus loin, c'est la science de vendre avec les mots. La différence, c'est pas tellement un art, plutôt une science, c'est que dans le copywriting, donc en français, on dirait un copywriter, c'est un concepteur-rédacteur. Ça veut dire qu'à un moment, il y a un client, une entreprise qui va venir vous trouver et qui va vous dire Écoute, j'ai cette offre qui est très bien. Ça peut être un bracelet, un cours de yoga, une formation en ligne. Ils vont venir vous voir, ils vont vous dire, j'ai ce super produit, cette super offre. Maintenant, il faut que je fasse de la pub pour toucher de nouveaux clients. Est-ce que tu peux écrire tout ça pour nous, s'il te plaît? Donc, le copywriter, il va écrire la pub Instagram ou la pub Google, Facebook, YouTube. Il va choisir ses canaux. Il va écrire les mots. Il va choisir les visuels. Et ensuite, une fois que le lecteur, il a cliqué dessus, il va arriver sur une page de vente ou il va arriver sur une vidéo de vente ou il va arriver sur un webinaire gratuit ou il va arriver sur un article de blog où on va lui proposer de télécharger gratuitement un e-book. Bah, tout ça, ce sont des contenus que le copywriter, il a pensé d'abord dans sa tête, le côté conception et rédaction. Il les a conçus, il y a pensé et il les a rédigés. Un concepteur-rédacteur, c'est quelqu'un qui aide une entreprise à vendre avec les mots.
D'accord. Et quelle différence tu fais alors entre la méthode de rédaction copywriting avec une méthode de rédaction assez classique enseignée dans les écoles de com aujourd'hui? On ne les apporte pas forcément cet aspect un peu punching commercial, quoi.
Mais c'est exactement ça. La vraie différence, c'est que tu vois, aujourd'hui, tu vas avoir beaucoup de, on va dire, web journalistes, tu vas avoir beaucoup de rédacteurs web qui sont des gens qui vont publier du contenu. L'objectif de ce contenu, c'est quoi? C'est de driver du trafic sur le site. Pourquoi? Parce que le business model du site, c'est de faire le plus grand nombre de clics possible, de faire le plus grand nombre de vues possible. Okay? Donc, il faut alimenter la machine à contenu. Ça, c'est vraiment le niveau, je ne vais pas dire le niveau zéro, mais c'est voilà, tu fais de l'actu, tu fais du texte pour faire du texte. Niveau juste un peu au-dessus, c'est être rédacteur web SEO avec une composante, donc Search Engine Optimization, le référencement naturel. Tu vas commencer à réfléchir davantage à tes textes. Quels sont les mots-clés qui sont dedans, quels synonymes, quels contraires, quels exemples, le maillage interne, quel lien je vais mettre qui fait référence à tel autre événement, tel autre article. Donc là, tu commences déjà à réfléchir un peu plus loin sur le côté, OK, il faut que mes lecteurs, ils restent avec moi et s'ils sont bons, il faut que je les emmène vers un autre article. Ça, c'est un niveau de pensée un peu au-dessus. Et derrière, encore au-dessus à mon sens, tu as le copywriter qui, lui, part. Le début de son écriture, ça va être le call to action. Pourquoi est-ce que je rédige ce contenu? Pour qu'à la fin, mon lecteur, il clique sur réserver, il clique sur faire un don, il clique sur remplir un quiz, il clique sur en savoir plus, il clique sur démarrer mon essai gratuit de 14 jours, il clique sur télécharger un e-book gratuit. On pense tout notre contenu à partir de cet appel à l'action. Et à partir de ça, un copywriter, il garde en tête un peu tous les principes de persuasion, tous les leviers de l'influence pour réussir à convaincre le lecteur. Un bon copywriter, il va prendre son lecteur. Moi, ce que j'aime bien voir, c'est un peu comme un slalom, tu vois, comme une descente à ski. Tu pars de tout en haut, le titre, et tu dois passer dans des portes. Tu dois passer à travers toutes les portes. Donc, tu vas accompagner ton lecteur. Le titre, le sous-titre, peut-être le chapeau, principe de persuasion 1, principe de persuasion 2, la familiarité, le côté autorité, légitimité, le côté preuve sociale, le côté garantie, hop, l'urgence, la rareté. Et tu le fais passer à travers toutes ces petites portes. C'est vraiment hyper important. Tu sais, c'est comme si sur un tableau électrique, tu remontais tous les petits leviers, clac, 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 et qu'à la fin, tu avais déverrouillé tout le coffre-fort. Et c'est bon. À la fin de ton texte, normalement, le lecteur, il se dit, oh là là, mais il faut que je clique sur ce lien. Oui, évidemment, je veux acheter ce produit, je veux acheter cette offre, je veux réserver, je veux télécharger. Ça, c'est le copywriting. Tu es jugé à l'efficacité. Un bon copywriter, il est payé parce qu'il réussit à atteindre l'objectif.
Ok, et du coup, alors le copywriting, tu le recommanderais dans sur quel type de média? Parce que aujourd'hui, on a du paid media, du owned media, du earned media, hein, ce qu'on appelle le POEM, le média payant, les médias qui nous appartiennent, les médias qui sont générés par les autres. Le copywriting, tu l'utiliserais dans quel cadre? Dans ces trois canaux-là?
Ben, la réalité, c'est qu'on l'utilise partout. Le copywriting, il est vraiment partout. Je prends le premier exemple. Tu fais un article, un public communiqué. Là, je ne sais plus, j'ai sous les yeux le dernier Society. Tu vois, Society, ils avaient quoi? Ils ont un public communiqué pour Google. Waouh, c'est à peu près la même tête qu'un article. Le titre est très bon, les illustrations sont très bonnes. Et à la fin, tu as rendez-vous sur ça pour découvrir machin. Okay, tu as ton call to action à la fin. Donc, tu peux l'avoir sur de la publicité payante. Okay. Mais sur Instagram, par exemple, comment c'est fait un post Instagram? C'est fait de la même manière qu'un post LinkedIn. les deux premières lignes, la première ligne et demie. Tu as une ligne et demie de texte pour captiver vraiment ton lecteur, pour qu'il clique sur lire la suite, pour qu'il clique sur en savoir plus. Alors, sur Instagram, on est évidemment dans une démarche de visuel. C'est le visuel qui est important, qui va te capter en premier et qui va te donner envie de lire la suite. Sur LinkedIn, on a quand même d'abord le texte, ensuite l'image. Donc, il y a plus de pouvoir au copywriting sur LinkedIn. Mais il est partout, il est absolument partout. Il est dans les mails. Chaque jour où tu envoies un mail à des potes pour leur proposer un week-end en Normandie, tu as intérêt d'avoir un très bon objet de mail et d'avoir les mots pour convaincre. Et en fait, le copywriting, c'est vraiment ça. C'est comment tu structures tes arguments, avec quelle force, avec quels exemples, quelles images tu vas utiliser pour convaincre ton lecteur d'aller dans ton sens. Parce que c'est ce qu'on veut à la fin, c'est que les gens, ils aillent dans notre sens. Le copywriting, tu l'as en politique. Regarde un peu tout ce qui s'est passé avec la campagne de communication autour du Covid, à quel point on a galéré. Pourquoi ? Parce que ça manquait de cohérence. Parce que du jour au lendemain, ils ne faisaient que se contredire. Tu vois, pas de masque, pas besoin. Non, t'inquiète, ça va s'arrêter, il n'y en aura pas chez nous. Finalement, le masque. Non, pas de vaccin. Si, le vaccin. Vas-y, à un moment, concentrez-vous, quoi. Soyez cohérents. Et ça fait partie des techniques d'influence, on va dire, des principes pour convaincre quelqu'un. Si t'es en mode girouette, un jour tu dis noir, un jour tu dis blanc, au bout d'un moment, on va pas te croire, on va pas te faire confiance. Et la confiance, c'est la base quand tu veux vendre quelque chose. Ce qui est important, c'est pas tellement ton produit, c'est pas tellement ton offre, parce que ton offre, on va la retrouver sur le marché, chez d'autres. Ce qui est important, c'est la confiance qu'on a en toi, c'est la relation qu'on a avec toi ou ton entreprise. Là, en l'occurrence, en ce moment, on a un problème en politique en France, on n'a plus confiance. Je dis on, globalement. Gros déficit de confiance en la parole publique. Donc ça, c'est un problème. Et le copywriting, il est là pour ça, les bons mots au bon moment pour la bonne cible. C'est partout.
Ah ouais, alors effectivement, en politique, c'est capital parce que là, tu t'exprimes à beaucoup de personnes et des personnes très diverses. En plus, il y a des très jeunes, des très âgés. Tu n'as pas un public cible. Par exemple, si je suis une marque, j'ai un public cible, je cible les jeunes de 18-25 ans et je sais que je vais avoir une certaine tonalité pour ces jeunes de 18-25 ans. La politique, la complexité, c'est que tu parles de 7 à 107 ans, on va dire, à peu près, ou 97 ans.
Allez, de 18, parce que ceux qui votent pas, on ne leur parle pas.
Ouais, tu as raison. De 18 à... beaucoup plus. Effectivement, là, c'est là où les mots sont importants, où il faut que tu puisses parler à tout le monde et que tu fasses passer le même message à des publics tellement divers. Alors là, c'est comme tu l'as dit, c'est un art, là, dans ces cas-là.
Ça, c'est vraiment très, très fort. J'avais sorti une vidéo comme ça sur les mots magiques de un seul discours et plusieurs cibles, comment faire. Moi, j'utilise souvent la méthode que tu dois connaître, le test de personnalité DISC. Tu vois, donc le disque, c'est vraiment d'un côté, on va dire, les gens un peu plus actifs, de l'autre, les côtés, les un peu plus stables, un peu plus passifs. Et sur l'axe vertical, on est plutôt sur des gens qui aiment les résultats en haut et des gens qui aiment les gens en bas. Ouais. Donc, en gros, si tu veux, ça te divise la population en quatre catégories où tu vas avoir le dé de dominant, le rouge, il est actif, il y va. Le rouge, c'est l'homme politique, c'est le gangster, c'est l'entrepreneur, c'est celui qui veut les résultats.
J'en ai un qui me vient en tête, mais je veux pas dire qui c'est.
Faut lui parler en chiffres. Là, clairement, ouais, tu peux avoir tu retrouves du Sarko, tu retrouves du Macron, tu retrouves vraiment, mais tous les gangsters, il faut vraiment réfléchir en se disant, résultat avant toute chose. S'il y a des pots cassés, c'est pas grave, on s'en fout. C'est l'éléphant dans un magasin de porcelaine. Mark Zuckerberg, quand il vole l'idée au frère Winklevoss, il s'en fout. Pourquoi ? Il est rouge. Il pense process, il pense résultat. Il sait qu'il va aller chercher son résultat. Tant pis pour les coûts du procès, parce qu'il sait qu'il a une idée qui vaut des milliards. Tu vois ? Donc ça, c'est vraiment le rouge. Le rouge, c'est maximum 5% de la population. On ne s'adresse pas vraiment à eux dans un discours politique. Deux, trois petites touches, tu vois. Il faudrait voir un discours comme du pointillisme. Tu mets deux, trois petites touches de rouge dans ton discours. Il y a les jaunes, les influents, les avocats, les professeurs, les artistes, les gens qui aiment bien les gens, tu vois. Eux, ils sont plutôt pas concentrés. ils aiment bien avancer, ils aiment bien avoir 12 000 idées à la fois, les coachs, genre moi, j'ai 12 000 idées de bouquins à la minute. Et pour bien travailler, il faut m'associer avec un rouge, parce qu'au moins, il me recadre un projet et j'avance. Bon, ça, c'est peut-être 15-20% de la population. Donc, déjà, voilà, on peut leur parler un peu plus en des termes humains. C'est important, parce que c'est une bonne partie de la population. Et à côté de ça, le vrai vivier, c'est 50% de la population, ce sont les gens, les verts. Vert comme stable, c'est le S, ils sont verts, le vert de stable. Mmh. Eux sont des gens qui n'ont pas trop envie que ça change. Ils n'ont pas envie de prendre de risques. Ils ne vont pas acheter un nouveau produit tant que ça n'a pas été testé suffisamment. Mmh. Tu vois, ils ne vont pas en faire plus qu'il n'en faut au travail. Ce n'est pas la Startup Nation. Ouais. Okay, tu vois, c'est vraiment, on n'a pas envie d'en faire plus. Donc, eux, c'est à eux qu'il faut parler. C'est eux qu'il faut rassurer. Et après, bon, dernière partie, tu vois, les retraités, j'allais dire les retraités, pas du tout. Les ingénieurs, tous ceux qui sont bleus. Le bleu, c'est conforme. C'est ceux qui aiment les process, qui n'aiment pas trop changer. Donc, tu vas avoir les ingénieurs, tu vas avoir tous les militaires, tu vas avoir les comptables, les gens qui aiment bien les process. Pourquoi changer? Ça marche bien comme ça. Et le plus important, c'est de respecter les process. Tu vas avoir les syndicalistes là-dedans, tu vois, qui vont être un peu dans cette mouvance-là. Donc, pareil, c'est peut-être 15-20% de la population. Et voilà, il faut leur parler. Maintenant, le test DISC, il est très bien quand tu vas t'adresser à une cible commerciale. Mais je crois que nos hommes politiques, quand ils créent un discours, il y a des bouquins géniaux. Les plumes du pouvoir, il est plutôt pas mal. Et récemment, j'ai lu, c'était un bouquin qui s'appelle Confusion de Marie Tanguy. C'est une fille, elle était à la CGT, à la CFDT, okay, je ne sais plus où elle était. Okay. Et elle est venue rejoindre l'équipe de campagne de Macron en 2017. Excellent. Pour écrire des discours, elle s'est vite rendue compte que c'était un exercice commercial de communication marketing, qu'on avait des cibles, qu'il y avait des mots précis à utiliser et qu'on était là pour réaliser un vrai exercice d'équilibriste, mais pas du tout pour inspirer quoi que ce soit de valeur, d'humanisme ou quoi. Ouais. Donc, elle te raconte comment elle a très mal vécu l'expérience. Ouais, ça a été très, très dur visiblement pour elle. Donc voilà, c'est eux, ils réfléchissent en termes de groupes d'électeurs, ils réfléchissent en termes de les retraités, qu'est-ce qu'on va leur dire, les camionneurs, qu'est-ce qu'on peut leur dire, tu vois, de lobby, à qui je m'adresse, qui sont mes cibles. Et quand tu as beaucoup de cibles comme ça, il vaut mieux multiplier, c'est ça qui est très fort dans leur communication, il vaut mieux multiplier les petits meetings avec les différentes fédérations que d'essayer de s'adresser vraiment à tout le monde et de satisfaire tout le monde, essayer de satisfaire tout le monde en un discours. C'est pas possible. Donc, mieux vaut avoir multiples, diverses petites cibles.
Est-ce que c'est quelque chose que tu as dû mettre en pratique? Parce que tu nous as dit que tu as travaillé 8 ans comme community manager de Patrick Bruel, qui est un chanteur, justement. Alors, j'espère que ce n'est pas une expression négative de dire un chanteur populaire. Il parle à beaucoup de gens. Beaucoup de personnes aiment la musique de Patrick Bruel. Alors, pareil, des jeunes, des moins jeunes, de tous horizons, etc. Est-ce que quand tu gérais ces réseaux sociaux, tu étais justement prudent à essayer de... Parce que c'est un chanteur qui, parfois, il n'est pas clivant, je pense, mais parfois, il y a des personnes qui n'aiment pas Patrick Bruel pour les raisons qui sont les leurs, qui s'exposent un petit peu. Moi, je suis niçois, alors je sais quand... Il est venu faire l'inauguration du stade de Nice.
À l'Allianz Arena.
Ouais, exactement. Tu pilotais à l'époque.
À l'Allianz Riviera.
Ouais.
Oui, c'était déjà moi.
C'était toi. Donc, quand il est venu, le pauvre, il est venu chanter, puis le public lui a reproché de soutenir le PSG. Bon, franchement, j'ai trouvé ça tellement déplacé. Et là, je peux peut-être prendre la parole de beaucoup de Niçois, et je veux pas aller contre les autres, mais beaucoup étaient un peu choqués de ce qui s'est passé, quoi.
Mais ouais, écoute, c'est de bonne guerre, tu vois, c'est de bonne guerre. Ce qui se passe, c'est qu'effectivement, tu ne peux pas satisfaire tout le monde. Et quand tu bosses en tant que community manager, du coup, ça t'amène à gérer des crises parfois auxquelles tu ne penses pas du tout, du genre aller chanter à l'inauguration d'un stade, tu te dis que c'est cool. Ben non, pour le coup, il repart avec. Mais c'est même pas un bad buzz. Là, c'est juste que voilà, il y a eu des bouts. Tant pis pour eux, tu vois, lui, il a fait sa prestation, ça va. Non, le truc le plus intéressant, vraiment, quand tu deviens community manager, c'est que ton cerveau se met à anticiper les trolls. Tu commences à réfléchir comme un troll en disant, OK, là, j'ai envie de poster ça. Quelles vont être les réactions? Je te donne un exemple. Winamax, à un moment, ils sont devenus sponsors de l'OM. Patrick était actionnaire à l'époque chez Winamax. Les gens savaient que Patrick, c'était Winamax en partie. Et du coup, Patrick égale le PSG. Donc avoir un W sur le short de Winamax, enfin le short de l'OM, tu savais qu'on allait s'en prendre plein la tronche, donc il fallait réfléchir intelligemment, il fallait anticiper. Il y a des trucs que tu découvres forcément. À un moment, il est au Canada, il est sur la banquise parce qu'il y a un gros marché francophone aussi au Canada, il tourne beaucoup là-bas. Il prend une super jolie photo avec un bébé phoque où il est juste à côté, tu vois, mais il n'est pas en train de le démonter, il n'est pas en train de lui chasser sa fourrure. Des tas de réactions négatives. À un moment, il est, je sais, pour un gala, je crois, en Chine, il poste une photo sur la Grande Muraille de Chine. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, les droits de l'homme, ouais, vous en foutez et tout. Vas-y. À un moment, tu ne peux plus rien faire, tu vois. Si tu te mets juste à réfléchir en termes de est-ce que je vais m'exposer, est-ce que je vais mécontenter quelqu'un? Oui. Ça, c'est un truc qu'il faut comprendre. Dès que tu as une marque, dès que tu deviens une personne publique, dès que tu communiques en ligne, de toute façon, tu ne vas pas plaire à tout le monde. Il faut l'assumer et il faut simplement avoir une ligne directrice. Et ce qui est très, très compliqué, c'est qu'il faut savoir bloquer, faire le vide et vraiment se débarrasser des ondes négatives. Mmh. Et c'est pour ça qu'il faut avoir un community manager, parce qu'au moins, c'est lui qui se mange tous les chocs, c'est lui qui peut appuyer sur supprimer, c'est lui qui peut bloquer certains mots-clés. Et ça permet à l'artiste de rester concentré sur son job à lui, c'est-à-dire chanteur, c'est-à-dire acteur, c'est-à-dire champion du monde de poker. C'est 12 000 casquettes à la fois. C'était ultra intéressant de travailler pour lui comme ça pendant 8 ans parce que ça m'a permis de voir voilà, comment on fait l'actu, comment est-ce qu'on fabrique la promotion d'un film, d'un livre, d'une tournée, de tout. C'était fascinant.
Ouais, c'est clair que encadrer la parole d'une personnalité publique, alors c'est très très formateur, c'est très épuisant aussi, j'imagine, c'est très compliqué, mais c'est très formateur encore une fois. Donc tu as dû apprendre certainement beaucoup de choses, que d'ailleurs on en retrouve certains traits dans ton livre. Et justement, le copywriting, pour revenir sur ce principe-là, comment tu peux en tirer profit sur les réseaux sociaux, justement, comment tu peux vraiment passer d'un community management assez parfois commercial, hein, c'est vendre à quelque chose d'un niveau supérieur, quoi.
Écoute, alors, à mon sens, tu sais, ça, c'est marrant qu'on fasse cette interview maintenant. Là, je me dis, c'était il y a 9 ans que je donnais mes premiers cours en community management. Parce que, ouais, on est en 2012 et c'était déjà ça. Comment on fait du bon community management? La métrique, à mon avis, vraiment le KPI, c'est l'engagement. Engagement, engagement. Qu'est-ce que tu vas avoir comme like? Qu'est-ce que tu vas avoir comme partage? Qu'est-ce que tu vas avoir comme commentaire sur ta marque? Eh bien ça, c'est du bon copywriting qui va t'aider à l'obtenir. Du bon copywriting, en fait, c'est comprendre les principes de discussion, les principes de communication qui vont faire réagir vraiment les abonnés. Qu'est-ce qui va te faire réagir? Eh ben, tu vas réagir à un sondage, tu vas réagir à l'indignation, tu vas crier avec la meute. C'est vraiment ça. Ouais, vous avez vu le discours de Zemmour hier? Bah, ok, tu peux être sûr que tu mets Zemmour, ça va cliquer. Mmh. Les gens sont comme des fous. On a toute une liste, on va dire, de mots-clés que moi j'appelle les mots magiques, des mots vraiment qui vont te faire vriller le cerveau. L'injustice, la facture, réduction, gratuit, tu vois. Tu peux mettre dans ton copywriting certains de ces mots-clés pour faire réagir vraiment ton lecteur. Et puis après, il y a aussi quand même une discipline cousine, vraiment adjacente, qui est le storytelling. Un bon copywriter, c'est aussi quelqu'un qui sait raconter une histoire. Et si tu veux performer sur les réseaux sociaux, vraiment, je crois que ce qui est important, c'est de comprendre, ok, qu'est-ce que je veux faire? Je veux développer mon audience? Oui, pourquoi? Ben parce que je veux plus de prospects. Je veux montrer peut-être que je sais très bien rédiger, je sais très bien engager, je sais obtenir plein de réponses, je sais obtenir plein de commentaires. Tout ça, ce sont des compétences qui sont ultra recherchées pour une marque. Donc voilà, comment réussir aujourd'hui, je dirais, c'est établir une identité de marque. Quand tu es copywriter, tu dois toujours respecter ce qu'on appelle un tone of voice. Tu vois, c'est une tonalité d'écriture. Par exemple, Oasis, Bifruit, Innocent, Burger King, ce sont des marques qui communiquent beaucoup avec de l'humour. Elles sont un peu irrévérencieuses. D'autres sont beaucoup plus classiques. Quand tu es dans le domaine de la banque et de l'assurance, tu communiques généralement de manière plus classique. Donc, il faut trouver ça, il faut trouver sa tonalité sur les réseaux sociaux. Ok, est-ce que je décide d'être un peu boring ou est-ce que je décide d'être complètement clivant parce qu'on vit dans une époque polarisée? Et ultra important, c'est toujours de comprendre sur quel outil j'écris. Quand j'écris sur WordPress ou dans ma newsletter perso, je peux écrire ce que je veux. Mais quand j'écris sur les réseaux sociaux, je sais que pour être publié le plus possible, pour être le partagé le plus possible, il faut être clivant. Donc, tu vas trouver des objets de mail complètement fous. Tu vas trouver les deux premières phrases sur LinkedIn qui sont parfois complètement hallucinantes ou ahurissantes. Mais on va chercher dans le curseur du très, très froid ou du très, très chaud. On va chercher l'indignation ou on va chercher le super bonheur. Mais dans le tiède, il n'y a pas de marché.
Ouais, je suis d'accord. D'ailleurs, j'ai vu que c'est une impression que j'ai. Je ne sais pas si c'est lié à mon utilisation de LinkedIn. J'ai l'impression qu'il y a peut-être une modification dans l'algorithme. Je ne sais pas, mais autrefois, LinkedIn, quand je dis autrefois, c'est il y a encore moins de 6 mois en arrière, c'était très polissé, très soft, pas de débat compliqué.
Fini. Hein. Terminé.
Tu es d'accord avec moi ? Et je vois beaucoup de posts passés, de gens que je ne suis pas d'ailleurs, qui me sont recommandés par LinkedIn, qui me proposent de machin, et ça clash, et ça crée des débats, et comme tu dis, effectivement, ces mots-là, ils sont vachement présents, quoi. On cherche
bien
le débat,
sûr,
quoi.
Mais parce que voilà, LinkedIn, aujourd'hui, c'est le Facebook d'il y a 3 ans, d'accord,
ouais.
On dit
ça.
Généralement le Facebook d'il y a 3-4 ans. Ils ont adapté leur algorithme pour être aussi sale que celui, on va dire, qui a fait élire Donald Trump, dans l'idée, tu vois, vraiment pour caricaturer. C'est-à-dire que on va proposer aux viewers, à tous les abonnés, enfin à tous les utilisateurs de LinkedIn, du contenu qui cartonne. Et tu l'as dit, parfois du contenu que tu n'as même pas demandé à voir. C'est juste que moi, Selim, j'ai cliqué sur un contenu génial de Nina Ramen que tu ne suivais même pas. Et hop, là, elle apparaît dans ton feed parce que j'ai cliqué dessus et toi, tu vois ça. Ah ouais, peut-être que ça peut m'intéresser aussi. Ils ont tellement de paramètres que au fil du temps, moi, je prends beaucoup de posts dans la tête où on est déjà à 500 likes, tu vois, des trucs très, 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 très bien. Et puis surtout, je pense que le développement de l'importance de LinkedIn, le fait qu'il y ait beaucoup plus de coach LinkedIn, le fait que beaucoup de nouveaux business et de startups se lancent sur un peu l'auto-promo sur LinkedIn, il y a eu beaucoup de challenges 30 jours. Tu vas publier chaque jour pendant 30 jours un post pour faire en sorte que l'algorithme s'emballe et que tu grandisses en communauté. Je crois que tout le monde commence à intégrer cette notion de publication chaque jour pour gagner une communauté. Et du coup, forcément, LinkedIn, il va t'envoyer sur tous ces gens qui publient comme des fous que le top 5%, le top 10%. Donc ouais, c'est en train de changer de physionomie.
Alors justement, LinkedIn, il fait un petit peu le chaînon manquant entre les deux disciplines, hein, que tu nous as évoquées, le copywriting d'un côté, le storytelling de l'autre. On construit sa marque et effectivement, c'est valable pour des entités commerciales, mais aussi pour des personnes, hein, personal branding, notamment pour ceux qui sont des freelance. Hein. Est-ce que le copywriting, mais aussi le storytelling, ce sera adapté dans ce cas, le mix des deux pour un CV, une lettre de motivation? Est-ce que tu recommanderais à des personnes de dire, bah tiens, il faut copywriter votre CV, votre lettre de motivation, il faut construire une histoire autour de ça à travers des mots? C'est quelque chose que tu recommanderais?
Ouais, bien sûr. Moi, j'ai la chance de bosser pour Glassdoor, notamment, tu vois. Donc, ouais. on n'est pas très, très loin dans le recrutement. J'ai la chance de m'être spécialisé là-dedans depuis quelques années aussi. Et c'est vrai que, alors, autant ton CV, ça va être dur vraiment de mettre du storytelling parce qu'un CV, tu vois, le recruteur, toujours se mettre en fait à la place de celui qui reçoit la communication. On ne communique pas pour nous, on communique pour le récepteur du message. C'est ce que je dis à tous les gens qui me saoulent à m'envoyer des vocaux. Chaque fois qu'on m'envoie un message vocal, tu vois, c'est « ouais, je te fais un vocal parce que c'est plus simple ». Non, mais pas du tout. En fait, les yeux lisent beaucoup plus vite que l'oreille n'écoute. Et au moins, quand t'écris, t'as le temps de penser, de synthétiser ce que tu m'écris. Je déteste les vocaux. C'est horrible qu'on me laisse des messages vocaux. Ça me rend fou. Mais il m'arrive d'en laisser parfois, tu vois. À cause de ça, à cause de cet aspect simplicité, pour celui qui parle, c'est plus simple. Donc, un recruteur, on se met à sa place, il n'a pas le temps. Tu publies une offre. Là, récemment, il recherchait un concepteur-rédacteur chez Nike. Je crois qu'ils ont reçu plus de 200 candidatures. Si ce n'est pas 900, je n'ai plus le chiffre. Je ne sais plus si c'est 200 ou 900. Mais quand tu es le recruteur, tu ne peux pas ouvrir tous ces CV. Donc déjà, tu vas éliminer, ou à tout hasard, tu vas éliminer 10 pages de mails que tu as reçues. Et sur la dernière, eh ben, tu vas peut-être tout ouvrir et tu regardes. Est-ce que c'est beau? Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'il y a un gros titre? Est-ce qu'il y a des rubriques qui sont très, très claires? Mais l'histoire, tu ne vas pas forcément aller la chercher sur le CV. Tu vas la trouver plutôt dans la lettre de motivation. Et là, comme toute bonne histoire, tu vois, il y a des paragraphes. C'est un peu, il y a une construction. Il y a un joli titre. Et puis après, bah, tu vas peut-être construire un paragraphe pour dire, voilà, pourquoi je vous contacte. Voilà, qui êtes-vous? Pourquoi je vous aime? Pourquoi ces valeurs-là, elles me parlent vraiment? Tiens, en fait, qui je suis moi? Sans faire une répétition du CV, parce qu'on n'est pas là pour faire une répétition du CV. On est là vraiment pour se vendre avec des arguments intelligents. Qu'est-ce qui va interpeller un recruteur? Paragraphe vous, paragraphe je, puis on termine avec un paragraphe nous, d'accord? Parce qu'on est là pour se marier. L'objectif, c'est vraiment ça. Donc, c'est intéressant de réfléchir un peu à cette structure, comment elle peut fonctionner. Et est-ce qu'on ne mettrait pas du gras, peut-être, pour interpeller? Ou est-ce qu'on n'essaierait pas d'insérer peut-être une image ou deux, ou une petite infographie? Moi, je suis open à tout. Quand je cherche des stagiaires, je cherche avant tout à ce qui, forcément, dans mon domaine, je suis dans la conception, rédaction, je suis dans la créativité. Quand on m'envoie un CV un peu créatif, ça me fait marrer. J'aime bien quand il a une tête différente, ça me fait marrer. Et surtout, ça montre que le candidat, il a compris un truc, ta marque, elle doit sortir du lot. Donc ça, c'est hyper important de juste comprendre l'objectif. À compétence égale, je vais aller chercher celui qui a compris l'exercice.
À toute la difficulté et justement la, ce qui fait l'originalité de certaines candidatures et qui fait qu'effectivement certaines sortent du lot parce que, alors je le vois aussi quand on publie par exemple des offres d'emploi, on reçoit 80 CV quoi, et ils sont tous, ces jeunes gens sont tous évidemment brillants mais ils sont peut-être un petit peu trop formatés, ils ont tous fait un bac plus 5, ils ont tous fait une école de com, ils ont tous un blog photo, ils aiment tous les voyages, ils aiment tous le ciné, ils aiment tous un peu pareil, et quand on voit quelque chose sur la forme déjà, la forme du CV d'aide de motivation qui nous donne un petit effet waouh, déjà c'est des candidatures qu'on met vraiment en haut de la pile. Et quand en plus, il y a le petit truc en plus du, dans le CV, le petit truc qui fera la différence, petite particularité, etc., ça, ça peut vraiment jouer, quoi.
C'est le, moi, j'aime bien l'exemple de Steve Jobs, tu sais, quand il finissait ses conférences. Ah, oh, one more thing.
Petite chose. Vois,
hein. J'ai oublié de vous dire. J'ai oublié le truc, là. À la fin d'un mail, c'est le petit PS. À la fin d'une lettre de motivation, on peut ajouter le petit PS. J'ai oublié de vous dire, j'ai lu le bouquin qui vient de sortir aux États-Unis. Regardez page 26 ou 27, ça peut vous aider pour votre activité, ça peut vous intéresser. Là, tu piques ma curiosité, là, je me dis, pff, il a tout compris.
Aller chercher la curiosité des gens, c'est ça qui est difficile. Alors, chercher leur curiosité, puis en même temps garder leur attention. Et je crois qu'il y a quand même deux écoles sur le rédactionnel, sur vraiment ce qui concerne purement là, du copywriting. Alors, ça peut être de la page de vente, peut-être un petit peu moins vrai dans le cas d'une lettre de motivation. On imagine mal une lettre de motivation en 25 pages. Mais il y a quand même deux écoles. Il y a ceux qui pensent qu'une bonne page copywritée, notamment une page de vente, ça doit être très long. Et d'autres qui pensent qu'il vaut mieux faire court. Ton avis, toi, Selim, t'es quel team? Team short,
écoute,
team
moi
long.
je suis team celle qui vend. Et
bonne réponse,
ça,
c'est
tu
la
peux
meilleure.
Le savoir, tu peux le savoir que quand tu testes. Ouais. Ça, c'est vraiment la réalité. C'est pour ça qu'on dit que le copywriting, c'est la science de vendre avec les mots. C'est que tu peux pas savoir. Parfois, tu peux vendre un produit à 7 euros avec peut-être 20 lignes. T'as pas besoin de faire 3 pages, d'accord? Mais quand tu commences à monter dans les prix, il faut bien se rendre compte que ton lecteur, il va avoir besoin d'être rassuré davantage, qui va vouloir voir que ton produit, il fait plus de choses. Les Américains, ils disent « the more you tell, the more you sell ». Plus tu en racontes, plus tu vas vendre. Mais ce n'est pas forcément vrai. Moi, je sais que j'ai une vidéo de vente en ligne qui fait 42 minutes et elle vend plus que celle qui en fait 14. Tu vois, mais il faut le tester pour le savoir. Il y a des gens pour qui, au bout de 4 minutes, tu as suffisamment dit et ton produit, tu vas le vendre. Mais si tu fais 20 minutes, ce sera peut-être trop long. Donc, j'ai pas de réponse, malheureusement. Le copywriting en agence, la conception rédaction, t'as pas beaucoup d'espace. T'as pas beaucoup d'espace. Quand tu fais une affiche pour le métro, tu vois, t'es limité dans le format. Quand tu fais de la pub dans le métro, bon, ben voilà, ton espace, c'est ça. Maintenant, pour une page de vente, ça dépend de ce que tu vends. J'ai vu une page géniale récemment pour une sorte de clinique du sommeil, une formation sur le sommeil, où la présentation du docteur qui fait le truc, il y a 5 bullet points, mais le gars, c'est un tueur à gages. Genre, ancien responsable de la clinique du sommeil à Paris, première boulette. Deuxième boulette, c'était 16 000 consultations effectuées sur le sommeil, deuxième. Troisième, c'était collaboration avec les plus grandes équipes de Formule 1. Donc, en gros, des mecs qui sont jet lag permanent, ouais. Donc très, 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 très balèze. Quatrième, je sais plus ce que c'était. Et le cinquième, c'était directeur de l'Institut européen du sommeil. Enfin, tu vois, voilà, en cinq boulettes ultra courtes, il t'avait expliqué que, gars, je vais t'apprendre à dormir. Tu vois. Et ça, du coup, il n'y avait pas besoin d'en faire des caisses et des caisses. Moi, sur mes présentations, quand je me présente sur mes pages de vente, j'en mets tout le temps une tartine. J'explique tout le temps, OK, voilà tout ce que j'ai lu, voilà tous les clients que j'ai eus. J'ai écrit pour Forbes, pour Technicard, j'ai écrit 3 livres. Tiens, t'as vu le dernier, c'est le guide du copywriting. Et il y a la chaîne ici, et regarde les interviews ici. Tu vois, je rajoute vraiment tellement, tellement de trucs, alors que peut-être un jour, imagine, si un jour je suis copywriter chez Nike, voilà, tu mets, voilà, Céline Dorfer a notamment été copywriter pour Nike. C'est bon, tu vois, t'as plus besoin d'en rajouter des caisses, quoi. C'est vraiment quel niveau de légitimité. Moi, je vais pas simplement dire Céline Niederhofer, auteur du guide du copywriting. C'est bien, mais est-ce que ça pèse assez? Je suis pas sûr. Tu vois, donc voilà. Et après, c'est chaque bloc de texte, voir est-ce que j'ai besoin de le développer? Est-ce que j'ai besoin de développer les garanties? Est-ce que j'ai besoin de développer les peurs du client? Est-ce que j'ai besoin de développer les bénéfices de mon offre? Est-ce qu'au lieu de mettre 10 bullet points, je dois en mettre 30? Variable à essayer, à tester. Tu vois? Et ça, c'est la seule réponse vraiment sérieuse qu'on peut donner, c'est il faut le tester. Il faut envoyer à 100 personnes une version A et à 100 personnes une version B et voir laquelle vend le plus.
Ouais, donc c'est ça, c'est ce que tu disais aussi tout à l'heure en termes de confiance, hein, confiance-crédibilité. Bah, cette personne là, qui a fait 16 000 machins consultations et qui est avec les pilotes de Formule 1, bon, tu vois qu'il est crédible, tu as confiance en lui, tu n'as pas besoin d'en faire des tonnes et des tonnes, quoi.
C'est ça, c'est exactement ça. Et puis surtout, docteur, tu vois, bon, voilà. Ouais. Moi je suis un bonnet, hein, mais quand je vois docteur, c'est comme quand je vois avocat, j'ai confiance. C'est comme ça, c'est des gens, ils ont fait 10 ans d'études, pas les avocats, mais les docteurs. Donc ouais, j'ai tendance à avoir confiance en eux. Et c'est ça qui est ultra intéressant, c'est que les plus grands arnaqueurs du monde connaissent très très bien ces principes de persuasion et en abusent. Bernard Madoff, il a exactement utilisé ses biais cognitifs, il a utilisé cette vulnérabilité du cerveau humain. Il s'est servi de son titre de président de la SEC, en gros l'autorité des marchés financiers américains, pour dire à tout le monde, ouais, confiez-moi 1 million, oui, j'ai un bon retour en ce moment, j'ai un bon placement, je vous dis pas comment, mais le mois prochain, je reviens avec 1 200 000, ah ouais, 20% de renta, c'est complètement fou, ok. Et ensuite, il va voir une autre personne, ouais, bah, votre voisin, il m'a confié 5 millions, ah ouais, il vous a confié 5, bah, tiens, voilà 10. Tu vois, et tout ça, c'est vraiment la preuve sociale et l'autorité. C'est connaître tous ces principes de persuasion et les utiliser correctement sur ta page de vente. On va dire pour faire le bien. Maintenant, si tu as envie de faire le mal, tu peux le faire aussi. Je ne suis pas responsable.
Et là, s'il y a le côté obscur, hein, comme dans Star Wars.
Mais c'est exactement ça. Tu sais, je pense que c'était avant-hier. J'ai écrit un article vraiment sur exactement ce sujet en disant, écoute, moi, j'y peux rien. Je te donne la force. C'est toi, tu choisis ce que tu vas en faire. Avant, je disais, je te donne une trousse à outils. Maintenant, le tournevis, tu peux l'utiliser pour tuer quelqu'un ou pour ouvrir des portes. Tu fais comme tu veux.
Ouais, donc il y a beaucoup de choses un petit peu immatériel et irrationnel aussi dans cette art de conception rédaction. Donc parfois on pense qu'on a fait des pages bien copyrightées, on a fait une bonne approche, tout va bien, et puis ça marche pas toujours. À quel moment, qu'est-ce que tu fais toi Selim quand ça marche pas? Tu penses que t'as bien fait le job, tu dis tout va bien, et puis bah ça répond pas derrière. À quel moment tu te dis c'est mon copywriting, à quel moment tu dis non c'est le produit qui est pas bon?
C'est compliqué à savoir, et encore une fois, il faut le tester. Généralement, tu vas tester en numéro 1, tu vas tester une autre page de vente. Typiquement, là, je vends une formation qui s'appelle « Devenir copywriter 5 étoiles ». Il y a une histoire, est-ce que ça sert, est-ce que ça accroche suffisamment au début, ou est-ce qu'il faut que je mette une autre histoire à la place? Est-ce qu'une autre histoire va permettre de captiver plus le lecteur? Est-ce qu'une autre histoire va faire qu'il va s'identifier plus? Est-ce que là, j'ai visé plus les copywriters intermédiaires. Est-ce qu'il ne faut pas que je mette une histoire qui va toucher les copywriters débutants? Tu vois? Donc, j'essaierai de changer ça. Et puis après, peut-être que c'est le price point qui n'est pas bon. peut-être que la formation, elle est trop chère par rapport à ce que tu as, par rapport à ce que tu offres, par rapport au reste du marché. Ça, normalement, ton analyse de marché, tu l'as faite avant. Ta veille concurrentielle pour te positionner en termes de prix, tu l'as faite avant de mettre en ligne. Donc, tu sais ce que ça vaut sur le marché. Mais peut-être que ton lecteur ne le perçoit pas de la même manière. Donc, il faut tester. Encore une fois, c'est qu'il y a plein d'éléments que tu peux tester. Mais avant de changer le produit, je changerai la page de vente.
Alors justement, Selim, est-ce que tu peux nous donner tes conseils, toi de spécialiste expert hein, éminent du copywriting, est-ce que tu pourrais nous donner par exemple deux modèles, une structure de page un petit peu développée et une structure de page un petit peu plus simple. Je pense à certains modèles, notamment dans ton livre, tu as une structure, par exemple, tu en as plusieurs, Aïda, qui sont peut-être les plus connues, tu as une structure qui est sympa qui s'appelle Pastor, et tu en as une plus courte qui s'appelle Papa. Ça, c'est des acronymes
Papa,
qui sont faciles
c'est très
à se rappeler.
Bien. C'est ça, mais voilà, ce qui est important, c'est quand tu es copywriter, tu dois démarrer avec une structure. C'est vraiment les petites roulettes, ok? C'est les petites roulettes sur ton vélo parce que ben, tu sais pas faire. Donc, vas-y, ne réinvente pas la roue. Prends les modèles qu'on te donne. Et tous les copywriters ont commencé comme ça. Aïda, c'est l'imbattable, l'indépassable. A pour attirer l'attention. Comment je fais pour attirer l'attention de mon lecteur? Un gros titre, une image choc, c'était vraiment le poids des mots, le choc des photos. Tu vois, c'était un peu cette idée-là, quoi. On attire l'attention, c'est hyper important. Si, en fait, c'est vraiment ça l'idée, c'est que toute la journée, ton lecteur, ton abonné, il est en train de scroller sur Instagram, il faut que tu aies un visuel suffisamment fort pour qu'il s'arrête, qu'il soit interpellé. Ça, c'est attirer l'attention. Mais une fois qu'il a cliqué, il faut maintenir son intérêt, susciter son intérêt, d'accord ? Son intérêt, ça veut dire il faut le qualifier. Est-ce que c'est pour lui ? Est-ce que c'est pour toi ? Si je me suis arrêté, par exemple, sur, je sais pas moi, un visuel avec un petit chat trop mignon et qui me dit « adopter un chat pour Noël », peut-être que je suis dans la cible, mais tu as des gens allergiques qui, du coup, bon, vont skipper directement. Allez, on s'en va. Et c'est très bien. Il faut qu'ils s'en aillent à ce moment-là. Il faut partir rapidement. Mais si tu as réussi à susciter leur intérêt ici, si tu as réussi à leur dire, écoutez, si vous souffrez de cette douleur-là, ou si vous avez mal ici, ou si vous en avez marre de ceci, ou si vous en avez assez de ça, s'ils réussissent à se projeter, voilà, à se projeter dedans, s'ils disent, ah oui, c'est moi. Il me parle à moi. Si tu réussis à faire ça dans ton écriture, je te parle à toi, lecteur. Là, c'est gagné. Tu as son intérêt. Ensuite, tu vas développer la partie désir. Le D de désir dans Aïda, c'est OK. Tu as ce problème-là. Regarde un peu. Regarde un peu ce que tu vas pouvoir faire. Regarde un peu ce que tu pourrais vivre. Regarde, j'ai une solution à tes problèmes. Cette solution, elle est là et elle va te permettre d'avoir ci, ça, ça et ça. C'est pas trop bien. T'as pas trop envie. Là, tu es comme un fou. Le désir, il est monté en toi. Tu as la bave aux lèvres. Vraiment, on a réussi à te mettre l'eau à la bouche. Vraiment. On termine avec le A de action. C'est très, très bien tout ce que tu as fait, le A, le I, le D. Mais maintenant, il faut que ton lecteur il passe à l'action. Il faut qu'il clique, il faut qu'il demande son essai gratuit, il faut qu'il rentre sa carte bleue, il faut qu'il fasse un don à la Croix-Rouge, il faut qu'il réserve sa place pour le webinaire, il faut qu'il télécharge cette application. C'est hyper important. S'il s'arrête là, ça ne sert à rien. Et pour qu'il agisse, il faut lui demander. Il faut lui dire de le faire avec des mots clairs, concis. Si ça t'intéresse, clique maintenant. C'est valable que 14 jours, clique maintenant. Découvre tout de suite, avant épuisement des stocks, un joli petit bouton. Je mets au panier, je découvre, je réserve et on clique. Ça, c'est la structure la plus simple qui soit. Elle a plus de 100 ans. Ça s'appelle Aïda et c'est vraiment ce que je recommande pour commencer.
Ouais, parce que souvent, le souci qu'on voit, hein, c'est qu'on veut rédiger un article de blog, une page de vente, une lettre de motivation, etc. On a les infos, on a grosso modo les éléments. Par contre, on ne sait pas dans quel ordre les positionner, quoi. Pour que ce soit cohérent, pour qu'on amène vraiment dans cet entonnoir où on commence sur le sujet un peu général, salut, je m'appelle Lin, et puis on finisse à la fin en disant embauchez-moi, quoi.
Ouais. Structure. C'est exactement ça, tu vois, cette structure, elle est importante. C'est vraiment comprendre comment la développer. Alors, surtout un truc, vraiment, aujourd'hui, il n'y a plus aucune excuse. Aujourd'hui, vous tapez modèle lettre de motivation, exemple lettre de motivation, et les deux premières pages Google, elles sont truffées d'exemples. Donc, servez-vous, regardez pas un seul modèle, mais regardez les deux premières pages. Généralement, la première page suffit, mais pourquoi pas les deux premières? Je crois que la curiosité, vraiment, dans mon métier, le copywriting, la curiosité, c'est ce qui permet de se démarquer, pas de se limiter à un exemple, mais deux, trois, quatre, cinq. C'est important d'avoir un peu une gamme un peu plus large.
Ouais, alors justement, avec Selim, on a parlé de le copywriting, pourquoi faire? C'est des réseaux sociaux, c'est de la lettre de motivation, c'est de la page de vente, c'est tellement de choses. Maintenant, qu'est-ce qui fait justement, et c'est ce que tu es en train d'aborder là, qu'est-ce qui fait qu'on peut être un bon copywriter? C'est quoi la différence entre quelqu'un qui ferait juste de la conception-rédaction avec des règles de base comme un AIDA et quelqu'un qui le fera avec le talent supplémentaire qui va faire la différence et qui va convertir vraiment de façon efficace, quoi? C'est quoi les soft skills en fait? Tu as dit la curiosité notamment.
Ouais, écoute, la curiosité, vraiment la compétence la plus importante à mon sens, c'est vraiment la curiosité et c'est cet état d'esprit de débutant perpétuel. C'est que même quand t'es ceinture noire, tu vas refaire tout le tour et tu vas recommencer à apprendre, tu vas continuer de pratiquer tes gammes et que même un Rafael Nadal, il va faire 100 services volés. Tu vois, on continue de répéter les gammes en permanence, on continue d'apprendre, on continue de regarder ce qui se fait sur le marché, à la fois dans le domaine du copywriting, à la fois dans le domaine du client pour lequel on écrit. On continue de lire CB News, Stratégie, J'ai un pote dans la com, tous les magazines qui traitent de la communication. On lit des livres, on regarde des émissions de télé US, tous les talk shows, tous les late night shows de Jimmy Fallon, de Jimmy Kimmel, de tout le monde, pour juste savoir ce qui se passe dans le monde. On se crée un compte TikTok, même si on n'a pas l'âge, juste pour voir ce qui se passe. Je pense qu'on a toujours l'âge, hein. Mais moi, par exemple, ça ne m'intéresse pas. Tu vois, Snapchat et TikTok, j'y arrive pas. Je trouve qu'il n'y a rien à faire là-dessus pour moi. Alors que peut-être ce serait une bonne idée, mais j'ai pas envie, je me sens trop vieux pour ça. Mais c'est important quand même de comprendre, si tu bosses dans le domaine de la musique, de comprendre que 4 des 5 plus grandes chansons de l'année, elles ont explosé sur TikTok cette année. Tu vois, c'est des trucs, il faut être au courant de ce qui se fait dans le marketing en ce moment. Voilà, pour moi, la curiosité et la formation continue, se former. Et puis surtout, ensuite, je te dirais aussi, pas mettre l'ego dans le business. C'est valable dans tous les business, hein, mais pas d'ego. Vraiment, ok, tu as fait des trucs bien à un moment dans ta vie, mais tu remets en permanence la ceinture en jeu. C'est pas parce que tu étais bon hier dans le domaine de la séduction que tu vas être bon dans le recrutement, que tu vas être bon dans la banque, dans l'assurance. C'est hyper important de se remettre constamment en cause et de vouloir apprendre en permanence.
J'aime beaucoup ces images avec le sport et la vie personnelle, les soft skills, la carrière, etc. Je trouve qu'il y a tellement de passerelles entre les deux. Et tu as justement pris l'image d'un champion comme Nadal. Nadal a des services volés, il sait en faire. Hein. Si vous l'avez vu jouer, le garçon, il sait bien. Le coup droit, il sait faire. Le revers, il sait faire. Qu'est-ce qui fait la différence entre un Rafael Nadal, avec la carrière qu'il a, et un top 20? C'est pas tant le niveau de tennis, parce que ça joue à peu près au même niveau, mais il y a la pratique, il y a l'effort, il y a le travail.
Ouais, t'as deux trucs.
Il y a la concentration.
T'as vraiment deux trucs. C'est vraiment, je pense, vraiment le nombre d'heures de travail. Ouais, nombre d'heures de travail, tu sais, c'est la fameuse théorie des 10 000 heures, hein, toujours, pour devenir expert. Et puis le mental. Au bout d'un moment, évidemment, t'as les deux qui jouent. Nombre d'heures et le mental. Là, alors rien à voir, je vous conseille un documentaire que j'ai regardé hier soir sur Netflix qui s'appelle 14 Peaks. 14 pics, 14 montagnes en gros, 14 pics, P-E-A-K-S. C'est un Népalais qui s'est mis en tête d'aller gravir les 14 sommets à plus de 8000 mètres d'altitude.
Petite
dans la vie, ça a été fait en 16 ans par Reinhold Messner, un alpiniste nord-italien, limite autrichien, tu vois. Il a fait les 14 sommets en 16 ans. Ce gars-là, le Népalais, j'ai pas retenu son nom, Nims, ouais, je crois qu'il devait s'appeler son nom de famille, ça doit être Nims. Il a claqué ça en 6 mois et 6 jours. Imagine la violence. Les 14, genre l'Everest, la Annapurna, le K2, enfin tout, les 14 sommets en 6 mois. Tout est dans le mental. Bien sûr, il y a la préparation, mais il y a une notion de mental qui est hyper, hyper importante. Et à un moment, les grands champions, tu vois, un Benzema, à un moment, il dit moi, j'ai pris une claque en arrivant au Real quand je voyais Cristiano qui restait après l'entraînement, après tout le monde.
C'est lui qui bosse le plus.
Des coups francs. Mais oui, c'est lui qui bosse le plus. C'est ça. À un moment, oui, le talent, c'est important, mais tous ces gars qui sont là, ils enterrent les autres à force de travail.
et le Ronaldo en question, justement. Hein. Alors, je suis aussi coach en formation mentale, donc effectivement, le sujet me passionne aussi. Ronaldo, c'est le seul, après les matchs de Champions League, hein, quand tout le monde a pris la douche et que veut rentrer tranquillement chez lui se reposer, il dit au gars, tu viens avec moi, on retourne en session d'entraînement. Quoi. Il est chaud bouillant, garçon, il s'arrête jamais. Donc, c'est effectivement un copywriter, et dans nos métiers, comme tu dis, il faut se challenger tout le temps. Eh ben, tout, voilà, c'est tout le temps, il faut remettre sur le
l'ouvrage. C'est une vraie routine sportive. Moi, tu vois, le sport, ça a été très important dans ma jeunesse. Ça l'est toujours aujourd'hui. Et des mecs comme Ronaldo, des mecs comme Kobe Bryant, quand t'écoutes ces interviews, ils te disent, hein, mais de toute façon, lui, Kobe et Michael Jordan, c'est des tarés. Les mecs qui débarquent au gymnase à 4 heures du mat, c'est pas possible, ils sont imbattables. C'est très 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 compliqué de battre des gars comme ça parce que ils ont une maladie mentale qui les pousse à vouloir te finir complètement. Et ça, tout le monde ne peut pas l'avoir. Tu vois, c'est pas possible. Et là, on rentre vraiment dans les 5% de rouges, de dominants qui vont tout donner pour leur art. Et en termes de caractère, attention, ça s'en ressent de temps à autre. Du coup, c'est dur avec les coéquipiers, avec le partenaire, ton mari, ta femme. Il y a forcément de la casse à certains niveaux. Il n'y a aucun grand champion qui est 100% équilibré.
Bien sûr.
J'y crois peu.
Ouais. Alors, c'était intéressant, justement, Selim, d'avoir ton point de vue sur les soft skills, hein, donc être curieux, force de travail, etc. Mais tout le monde ne peut pas être Nadal, malgré tout, il y a un caractère derrière. Est-ce qu'il y a des outils en copywriting qui peuvent aider, justement, Selim? Quels sont tes outils, toi, la boîte à outils ou le couteau suisse du copywriting, ce serait quoi pour... justement mettre en pratique un petit peu tout ce qu'on est en train de dire, mais avec des outils pour t'aider à être un petit peu plus efficace, quoi.
Il y a 2-3 outils quand tu as envie de performer vite et bien. En gros, nous, très souvent, ce qui se passe, la question qui se pose, c'est comment je démarre ma page, tu vois, l'écriture d'une intro. Eh ben, les intros, c'est très simple. Tu vas regarder ce qui se fait sur les autres pages de vente et tu te constitues ce qu'on appelle un swipe file, un petit carnet, un petit dossier dans lequel tu vas mettre 10, 20, 100 pages de vente que tu aimes bien avec des intros différentes. Et quand tu reçois des mails que tu aimes bien, tu les gardes et tu les classes. Et quand tu vois une pub que tu aimes bien, tu fais une photo ou tu fais un screen sur ton téléphone. Mais vraiment, ce qui marche le mieux, c'est ce côté archive. Parce que nous, quand on commence l'écriture, si tu veux, l'écriture, c'est comme un muscle et tu as besoin d'être chaud. Donc, pour bien commencer, moi, je commence toujours ma journée avant d'écrire pour mes clients. Je commence toujours par faire un peu de SAV, répondre à mes clients, écrire une newsletter pour moi, pour me chauffer. Tu vois, c'est l'échauffement. Parce que si tu arrives à froid sur une page de vente ou une séquence de mail pour un client, tu risques de pas y arriver. Donc ça, c'est hyper important. Le dossier, donc le swipe file, c'est ton dossier. La superstructure, bien évidemment, ça, je prêche pour ma paroisse, mais la superstructure, c'est tu l'as à côté de toi, c'est dans ton guide du copywriting, tu suis les 17 blocs de texte et ta page de vente, tu l'écris toute seule. C'est hyper facile. Pour ceux qui font des fautes d'orthographe, il y a un petit plugin gratuit qui s'appelle languagetools.com/fr, je crois. .com/fr, qui corrige quand même pas mal les fautes d'orthographe. Qu'est-ce qu'on pourrait dire sur la boîte à outils? C'est à peu près tout. C'est vraiment à peu près tout. Je pense que c'est prendre des notes, hein. Evernote. Moi, à chaque fois, j'ai des idées tout le temps sur mon téléphone. Je note tout. Vraiment, nous, notre richesse, c'est la capacité à créer des idées, la capacité à trouver des histoires et la capacité à trouver des bons titres. Bons titres d'articles, bons titres de mails, bons titres pour une campagne de pub. Et tout ça, ça passe par un max de lecture dans 10 domaines différents. Pour ça aussi que je recommande de créer des faux comptes. Créez-vous des faux comptes sur Instagram, créez 2-3 faux comptes, un faux compte sur lequel vous ne suivez que des gens dans le développement personnel et du coup, vous ne verrez que des pubs de dev perso. Créez-vous un faux compte dans le domaine du sport et vous ne verrez que des pubs avec des titres de sport. Créez-vous un faux compte dans l'univers du make money, suivez des gars qui font de l'investissement locatif, des cryptos, des NFT, devenez trader, tous ces trucs-là. Mais ça vous permet, au moment où vous avez un nouveau client dans un nouveau domaine, d'aller faire votre veille et de vraiment de comment on dit, tu sais, de vous imprégner, voilà, de vous imprégner de cet univers pour que les mots y sortent plus facilement.
Est-ce que tu aurais du coup des livres à nous recommander? Alors moi, j'en aurais un à recommander, c'est le guide du copywriting de Selim, hein, on va en reparler juste encore un petit peu après. C'est là où vous retrouverez notamment toute la superstructure qu'il a évoquée, hein, toute la structure de base d'une page. C'est facile, vous avez juste vous avez la structure, vous avez juste à remplir après, hein, et ça marche très très bien. Est-ce que tu aurais d'autres livres à recommander? Alors là, on est en visio. Écoute, avec Selim, je vois Ogilvy, le grand maître, On Advertising.
t'as tout le monde, t'as tout le monde derrière. En
Power.
Gros, caché derrière Ogilvy, il y a tous les. La vente, c'est pas mal. Les livres de Jacques Seguela, c'est superbe. How to Win Friends and Influence People de Dale Carnegie, évidemment. T'as Storytelling de Christian Salmon. T'as Jim Edwards, Copywriting Secret. T'as la Ultimate Sales Letter. Seducing Strangers du mec qui a donné naissance au personnage de Don Draper dans Mad Men. Mm-hmm. T'as la Ultimate Sales Machine. Il y a Robert Cialdini, évidemment, Influence et Manipulation et son livre Persuasion. J'en ai un qui est très drôle qui s'appelle Sell Naked on the Phone, genre vend depuis chez toi tranquille en slip à peu près, tout nu. Le Jordan Belfort est très drôle aussi, Way of the Wolf, le Loup de Wall Street, donc il a écrit son bouquin en français, ça s'appelle Vendre. Mais j'en ai des dizaines. Je t'enverrai un lien si tu veux. C'est le lien des meilleurs livres en copywriting, meilleurs livres pour apprendre à vendre. Je crois que je dois avoir une petite liste de 30 livres recommandés. Il y a aussi Nudge que je recommande très souvent. Nudge, tout à l'heure, il a gagné le prix Nobel d'économie en 2017. Mmh. Et le Nudge, c'est méga, méga puissant. Donc, ouais, il faut le comprendre. Là, je dois avoir un bouquin derrière sur le UX writing. Mmh. Comment tu écris ton UX, comment tu écris les boutons, comment tu écris des formulaires, c'est hyper, hyper important. UX writing, c'est UX copywriting, c'est aussi très, très bien.
Bon, bah, il y a de quoi lire. Alors, du coup, dans les prochaines soirées.
Ah ouais, non, c'est vraiment fou. Quand on veut se former au copywriting, généralement, un bouquin de copywriting, quand on a lu 3-4, ils vont tous se ressembler. Mmh. Mais chaque bouquin, tu vas trouver entre 10 et 20% de nouvelles idées. Et c'est ça qui est chouette.
Ça vaut le
coup. D'aller trouver un peu ces petites spécificités. Là, je suis quasiment à 100 commentaires clients sur Amazon, donc je suis super content. Il y en a 98 exactement au moment où on enregistre. Le pire, c'est un commentaire 3 étoiles qui dit « Ouais, c'est un super livre qui compile toutes les bonnes techniques de copywriting du web. Mmh. » En gros, le gars est énervé parce que, évidemment, j'ai rien inventé. Mmh. J'ai inventé 2 trucs dans le livre. Tout le reste, je l'ai récupéré d'ailleurs parce que on est juste des passeurs d'informations, on est des intermédiaires et tu retranscris ce qui se disait déjà dans les années 60-70 avec ce que tu connais, avec ton expérience, tu rajoutes un peu de nouveauté, mais ouais, c'est important de se dire que le copywriting, c'est tellement universel, tu sais qu'au fond, c'est que la suite de la rhétorique chez les Grecs. Ton ethos, pathos, logos,
exactement.
Ça ne change pas. On fait la même chose, mais sur une page de vente.
Et t'as tout dit, ouais. Ethos, pathos, logos, tout est là, quoi. Le verbe, l'émotion, le tout ça, tout est là, quoi. Qu'est-ce, justement, Selim, là, tu nous as donné envie de faire du copywriting. Enfin, je pense beaucoup, là, tu auras donné envie. Et il y a peut-être des personnes qui vont vouloir aller un petit peu plus loin. Toi, qui avec le recul que t'as, avec l'expérience que t'as, ce serait quoi, pour finir, le conseil en or ? Quel conseil le plus précieux que tu pourrais donner à ceux qui voudraient aller se lancer dans cet art-là ? La conception-rédaction. Si tu devais leur donner le conseil,
lisez,
le truc à 1 million.
Allez, lisez, écrivez. Franchement, c'est vraiment, tu sais, il y a un truc, c'est quoi ? C'est laver, rincer, répéter. Laver, rincer, répéter. Et ben chez nous, c'est juste... Lisez, écrivez, lisez, écrivez. On a besoin de lire, c'est du fuel, c'est vraiment du fuel dont on se sert pour avancer. C'est l'essence dont on a besoin pour avancer. Et l'essence, c'est quoi ? C'est regarder des documentaires, lisez des modes d'emploi, lisez des livres de copywriting, lisez des blogs, allez regarder des vidéos sur YouTube, intéressez-vous à différents marchés, plongez-vous dans les tunnels de vente des concurrents de vos clients, plongez-vous dans n'importe quel tunnel de vente, cliquez sur les pubs sur Instagram pour voir où ça vous emmène, cliquez sur les pubs sur YouTube pour comprendre vraiment ce que c'est qu'un entonnoir de vente, cliquez sur les pubs sur Google, cliquez partout. En gros, voilà, c'est vraiment, quand je dis lisez, c'est lisez tout ce qui vous passe sous la main. Essayez de lire tant qu'à faire les meilleurs copywriters, ça peut aider aussi. Et puis, je dirais, je ne suis pas dogmatique, formez-vous auprès de n'importe qui, mais juste lisez, écrivez, lisez, écrivez.
La curiosité dont tu nous as bien parlé cet après-midi, la curiosité, la curiosité. Alors je vous invite à être curieux et à vraiment à vous procurer le livre de Selim, donc ça s'appelle Le Guide du Copywriting, c'est paru aux éditions Erol en 2021, donc il est au goût du jour, même si vous avez bien compris que ben, les techniques sont anciennes, mais il y a aussi des ajouts nouveaux comme la superstructure ou la méthode Open que vous pourrez découvrir aussi dans le livre de Selim. Selim
Bien joué. Alors là, bravo, bien joué, parce que tu vois, récemment, j'ai reçu un message sur Instagram d'une lectrice qui me disait: c'est fou, je viens de tomber sur la méthode Open, c'est vous qui avez créé ça? J'ai fait: ben oui. Elle fait: waouh, c'est trop fort. Et c'est vrai que la méthode Open, j'avoue que j'en suis fier. L'acronyme est sympa et ce qu'il y a derrière, je trouve que c'est pas mal aussi.
Eh ben justement, on n'a pas trop dévoilé pour laisser la curiosité à nos auditeurs d'aller découvrir dans ton livre. Selim, c'est quoi ton actualité dans les prochains mois? C'est quoi tes challenges là? Alors, quand on enregistre, on est en décembre 2021, vous écouterez peut-être le podcast beaucoup plus tard. En tout cas, alors peut-être que quand vous écouterez le podcast, l'actualité à venir de Selim sera déjà de l'histoire ancienne. Mais c'est quoi tes challenges pour 2022, par exemple? Tu t'es fixé des choses dans l'année?
2022, objectif, doubler mon chiffre d'affaires, faire en sorte que la formation Devenir copywriter 5 étoiles, elle se vende bien. Et ouais, c'est ça, c'est vraiment ça. C'est bien vendre la formation Devenir copywriter 5 étoiles, l'améliorer le plus possible et doubler le chiffre d'affaires de 2021. Voilà. Après, je vais pas spoiler, je vais pas dire que j'ai déjà commencé l'écriture d'un troisième livre, ça, j'en parle pas, d'accord?
D'accord, on a bien noté qu'il n'y avait pas tout ça. En tout cas, tes objectifs, c'est quelque chose qu'on peut tous se fixer, nous aussi, hein. Se faire x2, c'est ambitieux, mais c'est un objectif smart. X2 sur une année.
C'est ça. Maintenant, on va voir comment on y arrive, mais ça devrait le faire. Il faut aller le chercher parce que c'est ambitieux, c'est motivant. Tu vois, c'est ça, c'est le côté réaliste, oui, le côté mesurable. C'est ça. On va essayer de l'atteindre. C'est pas démesuré. Ça reste dans le domaine du probable.
Eh bien, vous savez comment faire. Vous avez le copywriting qui peut vous aider à atteindre cet objectif, justement. Mettre des bonnes techniques de vente pour faire x2 sur un chiffre d'affaires, c'est pas du tout quelque chose d'inatteignable. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Même quand on s'appelle une grande marque, on peut tout à fait faire un x2. Et c'est peut-être justement le copywriting, les amis, qui peut vous aider. Eh bien, Céline, merci beaucoup.
Mais canon,
Un
Fabrice,
grand
merci
merci.
beaucoup à toi.
Vraiment, je te remercie parce que j'ai apprécié ton livre encore une fois. Et je te le redis, j'ai vraiment le plaisir à te le dire parce qu'en plus, je te vois devant moi. Donc, merci, tu as fait un livre qui est vraiment très sympa à lire. Eh bien, écoute, j'espère que nos auditeurs auront le plaisir aussi de le découvrir et puis d'apprendre beaucoup de choses comme j'ai pu moi aussi apprendre à travers cette lecture. Encore un
Ouais,
grand merci à
canon,
toi.
franchement, moi j'aime bien recevoir les messages hein, des lecteurs, que ce soit sur LinkedIn, sur Instagram, partout, et j'essaie de répondre à tout le monde, tu vois, tant que je suis pas encore une multinationale, profitons-en, répondons-nous.
Et puis vous laissez un avis sur Amazon si vous l'achetez sur Amazon parce que vous avez compris que c'est limite à 98 là, il faut absolument qu'il fasse x2 cette année aussi là.
Alors ça, ce sera un gros objectif. Ça peut être intéressant, tiens, de voir si on arrive aux 200 en fin d'année prochaine. À voir.
Bon bah écoute, merci Céline en tout cas, merci beaucoup à toi.
Merci beaucoup, Fabrice. À
Allez.
la prochaine.
Allez, à la prochaine. Et puis donc, en lien de ce podcast, vous avez donc bah vous avez une redirection automatique pour le livre de Selim. Vous avez Selim, tu m'enverras le lien avec tes lectures. Tu m'as parlé de ça tout à l'heure. On essaiera de faire un fichier ou quelque chose pour que les personnes puissent y avoir accès. Et puis je vous mets également les liens vers les réseaux sociaux de Selim et sur son blog, sa chaîne YouTube, pour que vous puissiez suivre son actualité. Allez, Selim, à bientôt.
À bientôt,
Allez,
Fabrice.
salut
Merci
Selim,
encore.
salut.
Ciao.
Voilà, merci à tous d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Tous les liens qui sont évoqués dans ce podcast sont en bas de cet épisode. Si vous regardez tout en bas, vous avez tous les liens avec notamment la liste vers les ouvrages qui sont recommandés par Selim pour améliorer vos techniques de rédaction. Il y a aussi le lien vers son livre qui a été publié donc aux éditions Erol. C'est le guide du copywriting. N'hésitez pas, voilà, à cliquer tout en bas pour découvrir cet ouvrage que vraiment je vous recommande, vous l'avez compris. Et puis sinon, Céline propose également des formations pour devenir un expert du copywriting. Là encore, le lien tout en bas. Et puis enfin, si pour être complet, si vous voulez également booster votre créativité sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à rejoindre la formation gratuite Scribe que je vous propose. Vous avez le lien là encore en bas de cet épisode. C'est une formation gratuite avec une série de 8 mails qui vous donne des techniques de pro pour pimenter la ligne éditoriale de vos réseaux sociaux et pour avoir une grille et des publications qui sortent du cadre. Merci à tous, encore une fois je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Salut à tous!